Oui, à l'effervescence, parce que vendredi, vous savez, on vous diffusera en direct de Vancouver le repêchage à la Ligue nationale de hockey dès 19h30. Il y aura Mario Langlois qui sera là de 18h30 à 19h30. Et par la suite, Danny Dubé et Martin McGuire, qu'on rejoint à l'instant, seront en onde. Salut, Martin.
Allô, Jérémy.
Martin, je parlais d'effervescence. On a entendu plusieurs choses. On se prépare. Mmh. On veut affûter nos crayons et savoir si nos notes sont bien révisées parce que le repêchage, soyons honnêtes, là, c'est la portion la plus importante maintenant dans la Ligue nationale de hockey.
Oui, avec l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Mais parce que la raison pour laquelle c'est un moment important dans l'année pour les gens de hockey, au-delà du fait que c'est ici qu'on va chercher le talent, c'est là qu'on repêche, c'est là qui est la base, la fondation des succès des organisations. Ça commence par une séance de repêchage, mais au-delà de ça, Jérémy, c'est le seul moment dans l'année où toute la planète hockey, les membres, les habitants de la planète hockey sont réunis dans la même ville, dans le même 10 ou 15 kilomètres carrés et peuvent se voir et se côtoyer en même temps. J'ai nommé, bien sûr, les prospects parce que c'est leur fin de semaine, mais aussi les agents, les entraîneurs sont ici, les dirigeants, directeurs généraux, les dépisteurs, les agents de joueurs, vraiment là, toute l'industrie au complet se retrouve au même endroit, au même moment.
Évidemment, l'an passé, c'était peut-être un travail qui était un petit peu plus facile pour Marc Bergevin et son équipe de dépisteurs parce que tu as le troisième choix au total, c'est pas trop compliqué et le gars peut t'aider assurément. 15e au total au premier tour, ça complique un peu les choses. Comment tu vois la situation, Martin?
Et habituellement, Jérémy, à moins d'une année vraiment d'une cuvée exceptionnelle, cette année, c'est une bonne cuvée, mais c'est pas une cuvée exceptionnelle. Alors, après le 10e choix, là, après la 10-12e sélection de première ronde, à partir de ce moment-là, ça devient des joueurs sur lesquels tu vas miser pour le long terme. C'est-à-dire que ce sont des joueurs que tu vas repêcher, mais tu sais pertinemment qu'il y aura probablement la fin d'un stage junior à faire et peut-être une étape dans la Ligue américaine pour ces joueurs-là. Là où ça devient intéressant, c'est qu'à partir de la 12e, 13e sélection, après là, jusqu'au 31e échelon, là où se trouve le Canadien, c'est que tu peux y aller, sans dire y aller selon tes besoins, tu peux y aller selon tes valeurs d'organisation. Mm-hmm. Par exemple, tu repêches au 15e rang, mais si un jeune joueur qui est répertorié 19, 20, 21, mais qui, dans ta philosophie d'organisation, tu aimes son attitude, tu aimes la personne, et t'aimes le genre de position qu'il joue, ça fit, comme on dit en bon québécois, avec ce que tu as besoin. Là, à partir du 10e, 12e échelon, tu vas souvent voir des organisations qui vont prendre des décisions allant vers leurs valeurs. C'est-à-dire, nous, on prend Pierre au lieu de Jacques parce qu'avec Pierre, on a ci, ça, et ça rejoint plus le genre d'équipe que nous sommes. C'est là où ça devient intéressant et c'est là où, quand on spécule sur qui sera le choix du Canadien, là, c'est intéressant de savoir parce que il y a peut-être un joueur qui est au 20e échelon et que le Canadien dit « Wow, lui, il correspond exactement à ce qu'on veut bâtir comme organisation. Alors, c'est sur lui qu'on va jeter notre dévolu. »
C'est drôle. On ne s'est pas parlé avant et tu m'amènes ces informations-là. Et je lisais, voilà, quelques instants. En fait, ça a été publié aux alentours de 19h sur le site de la Ligue nationale. C'est Trevor Timmons qui explique le repêchage, qui parle justement de cette journée où tous les dépisteurs se sont rencontrés aujourd'hui. Et on dit dans ce texte que le Canadien utilise pour une deuxième saison un outil d'évaluation de personnalité de comportement. Il a dit ben écoutez, en premier, on veut un bon joueur de hockey, ça c'est sûr et certain. Mais écoute, je te fais de la nomenclature des éléments qu'on cherche chez les joueurs. On cherche A, soit du caractère, la compétitivité, la confiance, la volonté de s'améliorer, ça c'est important, et un atout également. Un soin de tir puissant, le sens du hockey, le patin, l'effort. Donc, on veut vraiment cibler un individu. On veut un bon joueur de hockey, mais on veut un individu qui sera capable de joindre les rangs de l'organisation du Canadien.
Oui, parce que tu veux quelqu'un qui va accepter d'être challengé. Tu veux avoir quelqu'un qui va carburer au défi, qui va vouloir compétitionner contre ses pairs, qui va vouloir compétitionner au coude à coude avec ses coéquipiers, qui va le faire dans l'intérêt de l'équipe. Tu sais, c'est toutes des affaires, c'est toutes des valeurs sur lesquelles la plupart des équipes de la Ligue nationale souhaitent se baser. Après ça, ben écoute, ça devient beaucoup ce que tu en as fait comme évaluation du joueur. Tu sais, parce que on donne souvent lui comme exemple, là, tu sais, mais Patrice Bergeron, là, cette perle qu'on a découvert dans la région de Québec là, il y a quelques années, que les Blues ont trouvé, alors que beaucoup d'équipes ont pas vu en lui ce qu'il apporte aux Blues, ben c'est ça. Ça, c'est un petit quelque chose de plus. Puis si tu fais tes devoirs, puis si tes gens de hockey ont fait leurs devoirs comme il faut, puis si tu t'es challengé à l'interne, si tu t'es posé des questions, si tu t'es poussé à dire, à la limite, là, dire on prend lui, mais voici pourquoi, puis on met le point sur la table, puis on dit c'est lui qui nous prend. C'est pas une science exacte. Mais si tu t'es vraiment poussé, là, puis t'as vraiment des convictions profondes envers un joueur, ben vas-y avec celui-là. Tu sais, c'est ça qui est intéressant. C'est comme ça que tu finis par trouver des joueurs qui, en bout de ligne, te servent bien ton organisation, sans devenir des Sidney Crosby, là, parce que des gars comme ça, t'en as un ou deux par 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans. Alors les autres, là, il y a de bonnes perles à chaque année. Et il y a de bonnes perles dans à peu près toutes les rondes jusqu'à la ronde numéro 7 en plus.
Donc, si on comprend bien ce que tu nous racontes et les propos de Trevor Timmons, l'objectif premier lors de ce repêchage, 15e choix en première ronde, n'est pas de combler un besoin immédiat, mais d'aller chercher un individu qui va aider l'équipe à moyen et à long terme. Maintenant, je continue avec le texte. Écoute bien ça, c'est intéressant. Trevor Timmons a dit, comme je te mentionnais, 3e va jouer l'année prochaine, 15e, ça peut prendre un an, ça peut prendre 2 ans.
Ouais.
Si nous avons, et là il dit, évidemment, le repêchage n'est pas pour les besoins à court terme. Si nous avons des besoins immédiats, ça c'est Trevor Timmons qui dit ça. Si nous avons des besoins immédiats, Marc regardera ailleurs ou tentera de s'entendre avec un agent libre. Ça c'est Trevor Timmons qui dit ça. Donc, si on a des besoins à très court terme, ça ne se passera pas par le repêchage. Là.
Non, puis tu sais, c'est tout à fait logique, là. Prenez par exemple, là, je vais illustrer avec un exemple, Jérémy. Quand le Canadien a repêché Carey Price, on se souvient, c'était la loterie post-lockout. Ça a été la loterie qui a favorisé les Pingouins et qui a permis aux Pingouins de repêcher Crosby. Le Canadien se retrouve à ce moment-là, à cette fameuse séance de sélection-là, avec le choix numéro 5. S'ils avaient regardé uniquement leurs besoins, c'est sûr que c'est un joueur de centre qu'on aurait sélectionné. On aurait probablement sélectionné Kopitar. Parce qu'à l'époque, le nom de Kopitar résonnait aussi parce que c'est un joueur de centre. Mais à un moment donné, à la table, on s'est dit, ben, le gars le plus talentueux au 5e échelon, c'est Carey Price. Et le gars le plus talentueux, c'est un gardien de but. Mais souvenons-nous que cette année-là, José Théodore, là, dans les mois qui avaient précédé, avait signé une prolongation de contrat de tout près de 20 millions de dollars, si ma mémoire est bonne. José venait de gagner le trophée Hart. Il avait les clés de la ville. Il était plus populaire que le maire de Montréal puis que le premier ministre du Québec ensemble. Puis là, ben, cet été-là, le Canadien a repêché probablement le plus grand gardien de son histoire, après Jacques Plante. Tu sais, c'est pour ça que ça rejoint un peu les propos de Trevor Timmons. C'est-à-dire que quand vient le temps de parler, qui est le joueur le plus talentueux? Qui est celui qui a le plus de chances d'amener ton équipe à d'autres niveaux? Ben, si c'est un gardien de but, ce sera un gardien de but. Si c'est un défenseur, c'est un défenseur. Si c'est un joueur d'avant, c'est un joueur d'avant. Par contre, dans les rondes 2, 3, 4, 5, 6, là, à ce moment-là, tu peux regarder un peu plus tes besoins, mais pas tes besoins à court terme, tes besoins là, à moyen terme. Tu regardes ton organigramme, puis tu dis, bon, ben regarde, au centre, on a tel gars, notre plus jeune a 25 ans, après ça, c'est des gars de 30 ans. Ben là, tu commences à dire, si on prend pour acquis que ça prend environ 4 ans former un bon joueur de centre que tu as pris en deuxième ronde ou en troisième ronde, ben là, tu commences sérieusement à penser à sélectionner un joueur comme ça. Parce que tu compares avec l'âge des joueurs que tu as dans ton grand club, puis dans ton club école, puis dans ton système de développement. Puis là, ça te guide où tu devrais aller.
Martin, évidemment, il y a le repêchage, mais au courant des dernières années, Marc Bergevin nous a habitués à être quand même actifs à cette période de l'année quand on veut essayer d'amener, d'ajouter pour parer ou à certaines lacunes du côté de l'organisation. Selon toi, est-ce que tu t'attends à voir Marc Bergevin être actif, soit au courant, juste avant le repêchage, après le repêchage? Comment tu vois la situation?
Alors, moi, je pense qu'il l'est déjà. Marc Bergevin pourrait être un partenaire de danse intéressant pour une équipe qui a à libérer un joueur qui voudrait se libérer d'un contrat d'un joueur qui pourrait rendre des services aux Canadiens. Ça, je pense que le Canadien a le profil pour ça. C'est une équipe riche qui n'a aucun problème avec dépenser de l'argent jusqu'au plafond salarial. Et en plus, ben, c'est une équipe qui a de la flexibilité en dessous du plafond salarial. Alors, c'est pour ça que il a peut-être déjà reçu des coups de fil, puis il va continuer d'en recevoir. Est-ce qu'on va le tenter avec quelque chose d'intéressant? C'est parce que tu peux vouloir délaisser des salaires de ta masse salariale, mais ça se peut que ce soit des joueurs qui sont plus ou moins intéressants, des joueurs qui sont en fin de parcours avec des mauvais contrats. C'est sûr que si on offre ça aux Canadiens, je pense pas qu'on va voir grand mouvement de personnel. Mais s'il y a quelque chose là-dedans qui plaît aux Canadiens et qui permet aux Canadiens de colmater une brèche, je ne sais pas moi, au flanc gauche à la défense ou dans le top 6, je pense que le Canadien est rendu à l'étape où il doit écouter ce genre de propositions-là, parce qu'on se retrouve encore avec la même équation. Là. Les deux généraux, dis-je bien pour parler un bon français, les deux généraux de ce club-là là, sont des gars qui ont dépassé la cape le cap des 30 ans, c'est-à-dire Carey Price et Shea Weber. Et à l'autre bout de la chaîne, on a le jeune Kotkaniemi qui vient à peine d'avoir 18 ans. Alors là, tu sais, c'est dans le milieu, là. C'est un noyau avec des Drouin, des Domi, des Gallagher qui sont encore dans la jeune vingtaine, là, qui sont dans une bonne fenêtre de courbe de performance. Mais si tu veux faire des étincelles à moyen terme, à court ou à moyen terme, ben, ça te prend peut-être un ou deux joueurs, là, dans cette force de l'âge, là, c'est-à-dire dans la fenêtre de 25 à 30 ans, là. Puis ça, ben, s'il y a une option comme ça qui se présente aux Canadiens à une position où il y a des besoins, moi, je peux pas savoir comment Marc Bergevin peut tourner le dos à ça.
Dis-moi, Martin, aujourd'hui, on apprenait que les Ducks d'Anaheim ont racheté le contrat de Corey Perry.
Oui.
Si Martin McGuire est directeur général du Canadien, mettons, là, mettons, je te mets directeur général.
Ouais.
Est-ce que Martin McGuire prend... Attends, laisse-moi finir ma phrase. Est-ce que Martin McGuire prend son téléphone et appelle l'agent de Corey Perry?
Honnêtement, non. Non, écoute, puis, tu sais, là, c'est drôle hein, que tu me poses cette question-là, parce qu'aujourd'hui, quand la nouvelle a sorti, je réfléchissais à la même chose, puis je me souvenais de Eric Staal.
Mm-hmm.
Puis quand Eric Staal est sorti de la Caroline, tu t'en souviens, puis qu'il s'est en allé à New York, puis qu'à New York, ça n'a pas marché. Ça n'a pas été un bon fit pour lui. Là, on s'est demandé, mais écoute, Eric Staal est peut-être fini... il n'y a peut-être plus grand-chose à tirer de ce joueur-là, puis là, on va gérer sa décroissance. Là, tout à coup, il se ramasse au Minnesota avec un contrat de 3 ans, 3 ans, 9 millions, si ma mémoire est bonne. Puis là, ben cette année-là, Eric Staal a fini parmi les 15 meilleurs pointeurs de la LNH. Il a flirté avec les 40 buts. Alors, tu sais, est-ce qu'il y a encore du jus à sortir de Corey Perry de la même façon qu'il y en avait envers et contre tous dans le cas d'Eric Staal, je le sais pas. Honnêtement, mais moi, j'ai de la misère à l'imaginer venir aider le Canadien. J'ai de la misère. Je dis pas que c'est impossible, là,
ouais.
Mais j'ai de la misère.
Assurément, écoute, on trouve les éléments positifs. Assurément, pour l'avantage numérique, ce gars-là possède un tir extrêmement puissant, calme avec la rondelle, pourra faire la job. Mais à 5 contre 5...
Puis il est grand, gros, costaud, fort.
Des bonnes mains.
Puis des fois, il est déplaisant aussi. Là. Alors ça, c'est un profil que le Canadien n'a pas beaucoup. Mais malgré tout ça, là, j'ai de la misère à imaginer Corey Perry dans le chandail du Canadien. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, puis ça se peut que j'ai complètement tort, puis ça se peut que, on ne sait jamais, ça se peut que ce soit la saveur du jour, mais j'ai pas l'impression, Jérémy, j'essaie de coller ça dans ma tête, puis c'est comme un morceau de casse-tête qui ne rentre pas. Là. Dans ma tête, c'est ça. Là.
34 ans, le gars, tu sais, on peut regarder pour un troisième trio, 10-12 minutes de jeu par match.
Ouais.
Écoute... Je ne sais pas, moi, personnellement, le premier réflexe que j'ai eu, c'est avantage numérique. Ce gars-là peut aider pour l'avantage numérique. Après, j'ai pensé attitude avec la bande de jeunes qui est présentement chez les Canadiens. Tu sais, on dirait que, comme toi, je ne suis pas convaincu du mix entre ce qu'il peut avoir chez les Canadiens et Corey Perry.
Écoute, je vais te poser l'équation là, de la façon suivante. Joel Armia est un agent libre avec restriction avec le Canadien. Le Canadien
ouais.
Ne perdra probablement pas Joel Armia. Mais est-ce que dans ton top 9, tu prends Joel Armia ou tu prends notre ami d'Anaheim? Je te lance la question. Qu'est-ce que tu trouves le plus intéressant pour aider l'équipe?
Ben, je pense
est-ce que tu prends Corey Perry ou Joel Armia?
Je prends Joel Armia. Pourquoi? Pour l'âge. J'espère pour le potentiel qui pourra se développer du côté de Joel Armia.
Ouais.
Mais écoute, voyant les insuccès de l'avantage numérique, je me questionne. Sérieusement, je me questionne, Martin.
OK. Absolument. Ben écoute, moi, je pense que si tu décides de te tourner vers Joel Armia, d'après moi, tu n'es pas vraiment un candidat pour aller chercher Corey Perry.
Non.
Mais c'est sûr qu'il va recevoir un coup de fil, son agent va recevoir un coup de fil, parce qu'avec un contrat là, aux alentours de 2 millions, 2 millions et demi de dollars, là, un an, deux ans, là, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va faire une proposition à Corey Perry. Tu as des entraîneurs comme Barry Trotz et compagnie là, qui sont capables d'aller des fois soutirer de l'eau d'une roche.
Oui.
Alors, écoute, là, tu vois le profil, là, une équipe qui a des difficultés. Écoute, là, si Patrick Maroon a réussi à renaître et à devenir un joueur important pour la conquête de la Coupe Stanley des Blues, écoute, Corey Perry est capable. Mais j'ai de la misère à imaginer que ça pourrait se faire à Montréal.
Ah, d'accord avec toi, Martin. Juste à dire, en passant, Nikita Kucherov vient de remporter le trophée Ted Lindsay. Donc,
ouais.
Kucherov, qui était un joueur dominant, a déjà remporté le Hart Cross. Écoute, c'était vraiment sa saison.
Écoute, lui, je te le dis, là, tous les trophées qu'il va ramasser ce soir, là, il les mettrait dans le coffre de sa voiture, puis il s'en irait à Saint-Louis avec ça. Puis il essaierait probablement d'échanger ça contre la coupe.
C'est sûr.
C'est sûr.
J'entendais Victor Redman qui dit « J'ai écouté à peu près 10 minutes des séries, tellement frustré, je ne vais même pas écouter du hockey. Je peux comprendre le Lightning de Tampa Bay. » Martin, écoute, le temps file rapidement, on va se quitter là-dessus. Oui. Mais juste te dire, je regardais là, les joueurs autonomes avec restrictions. Il y a quelques clubs qui auront des situations un peu compliquées. Je ne sais pas Toronto, qu'est-ce qui va se passer. Tu as Patrick Laine avec les Jets, les Golden Knights de Vegas qui sont au-delà du maximum permis sur la masse salariale.
Ouais.
On devra bouger. Je sais que les collègues de TVA Sports ont dit que peut-être que Pacioretty pourrait changer d'adresse.
Ouais.
Est-ce que ça sera Stachny qui changera d'adresse, mais il va falloir bouger quelque chose. Et William Carlson a signé, si on veut le garder. Il y aura beaucoup de mouvements.
Ben, écoute, les coups sont sur les ailes. Je pense pas qu'on touche à la ligne de centre, mais sur les ailes, là, tu sais, je pense à Riley Smith.
Oui.
Et regarde ça, là. Je regarde une couple de candidats dans cette équipe-là. Je pense pas d'emblée à Max Pacioretty. C'est pour moi, là, je pense pas à lui d'emblée. Écoute, ils viennent d'aller le chercher, ils viennent de le signer. William Carlson est un gars qui a tellement eu de succès avec eux à sa première saison. Je pense qu'on va vouloir le signer. Mais on va en laisser partir un, c'est sûr, là. Ça va être intéressant de voir. Je vois pas Marchessault non plus quitter Vegas. Je pense que pour eux, c'est un gars très important. Si tu signes William Carson, là, son ailier par excellence, c'est Marchessault. Alors, tu gardes ces deux-là, il n'y a pas de doute là, en ce qui me concerne. Mais bon, écoute, il y a Toronto, là. Puis là, ben, il y a toute cette histoire d'offre hostile. Là.
Mm-hmm.
Ça fait jaser les médias que nous sommes. Là. Est-ce que ça fait vraiment jaser les directeurs généraux?
Pas sûr.
Je vous rappellerai qu'on a appelé ça des offres hostiles. Le mot hostile
est là.
Est là. Alors, si on a pris la peine de nommer ça comme étant des offres hostiles, ben, sachez que dans le groupe des 31 propriétaires, quand ils s'assoient dans la même pièce puis qu'ils sont autour de la même table, là, il faut qu'ils se regardent dans les yeux. Puis s'il y en a un qui a fait une offre hostile à l'autre...
C'est moins le fun!
Des fois, ça jette des froids dans les réunions, mon cher Jérémy.
Clairement. Écoute, Martin, on t'écoute vendredi. Évidemment, on se reparlera demain, mais on t'écoute vendredi pour le repêchage à compter de 19h30 avec Danny Dubé. Merci beaucoup, Martin, d'avoir été avec nous.
À demain!
Merci, au revoir. Martin McGuire qui nous parle en direct de Vancouver.